Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Girafe Normandie pour un nouveau podcast, un havre de culture. Je suis Guillaume Le G de Girafe et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un chanteur havrais, également auteur et compositeur, Mathieu L. Mathieu, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Je suis ravi de te recevoir avec nous et puis nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton nouvel album Seigneur Emino, alors sorti il y a quelques semaines maintenant déjà, je crois que c'était au mois de juin.
Ouais, j'ai sorti une série de singles en tout
voilà,
cas.
Là, on enregistre au mois de novembre. C'est ton troisième album solo. Avant de te lancer en solo, tu as fait également partie d'un groupe, l'Inoneum, je crois, au début des années 2000. Donc, ça fait au moins 25 ans que tu officies dans le domaine de la musique. Et pour commencer, j'aimerais savoir justement si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours. Quelles ont été les étapes et les rencontres qui t'ont marqué durant toute cette période ? Qui tu es, en fait ? Est-ce que tu peux nous le dire ?
En résumé, en quelques mots... Si je remonte aux origines, je pense que c'est au lycée où j'avais une bande de copains qui étaient vraiment des icos solfège, avec conservatoire, solfège, de formation plutôt classique. Et moi, j'étais plutôt branché sport à l'époque. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune ado. Et autour de 14-15 ans, j'ai commencé à avoir vraiment une attirance forte pour la musique en plus du sport. Mmh. Et donc, j'ai commencé à me plonger dedans sérieusement. Et puis, il y avait une guitare qui traînait dans la maison de mes parents. Donc, je m'y suis mis comme ça. Et puis, très vite, ça a été le virus de l'écriture. Ce qui m'a tout de suite intéressé, ce n'était pas d'apprendre le solfège ou de me perfectionner sur la maîtrise d'un instrument, c'était vraiment d'écrire des chansons.
D'accord.
Hein, donc déjà, j'ai commencé à écrire vers 13-14 ans, et puis des choses assez moches au début, évidemment, assez nulles. Quoique, quand on les réécoute 25 ans après, on se dit, finalement, il y avait des
choses bien, des choses à garder, finalement.
En tout cas, dans le côté spontané, que parfois on perd un peu. Quand on veut trop...
On réfléchit trop, est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est bien tourné, etc. Exactement. Donc tu as commencé par l'écriture en fait, c'était plus l'écriture que la musique.
C'est vraiment écrire des chansons, composer des textes, trouver des mélodies. Ça c'était ma passion absolue tout de suite quand j'ai commencé à faire la musique. Je sentais bien qu'il fallait quand même apprendre plein de choses, apprendre à jouer de la gratte et puis apprendre à jouer d'autres morceaux. Donc j'avais un copain qui était déjà presque prof de guitare et qui m'a appris à jouer. Et alors à l'époque, j'écoutais que du punk rock quasiment. Ouais. NoFX, Green Day, Bad Religion, toute cette vague là de rock alternatif là,
dans les années 90.
Exactement. Années 90. Moi je passais mon bac. C'est la musique qui m'a beaucoup intéressé, interpellé. Puis avec ses copains Zikos, on passait beaucoup de temps à décortiquer les compositions, la direction artistique, les instrus, les voix, les chœurs.
Alors,
les...
on rentre un peu dans la technique tout de suite, mais ce n'était pas que les accords ou les lignes mélodiques, c'était aussi la façon dont c'était construit, les sons. Les arrangements, les choses comme ça, d'accord.
Exactement.
Ah, ok. Donc ça allait quand même assez loin déjà des débuts.
Ouais, parce que dans cette bande de potes, il y en avait un qui était un G-son. Alors là, je fais un petit pas dans le temps, mais on a plus autour de 18-20 ans. Et parmi les potes Zikos, il y en avait un qui était un G-son. Et donc on écoutait vraiment, je me souviens, on passait des soirées. Ce qui emmerdait un peu nos autres copains d'ailleurs. On passait des soirées avec deux enceintes, à en couper une pour écouter ce qui, dans le mix, avait été mis à gauche, à droite, quelle guitare avait été mise à droite, comment étaient conçus les mix.
D'accord, tout de suite, très féru de technique.
Ouais, enfin, en tout cas, mon pote, il m'entraînait là-dedans. Mmh. Et moi, ça m'intéressait beaucoup parce que ça me nourrissait pour la composition et l'enregistrement. Mmh. Qui était vraiment mon...
Ça a influencé... Alors, c'était mes questions suivantes, mais on en parle tout de suite, mais ça a influencé ta manière de composer. Est-ce que... Alors, j'ai compris que c'était plus un travail d'écriture qui te plaisait au départ.
Oui.
Que la pratique de l'instrument. Tu pratiques la guitare. Le groupe Linoleum s'est monté avec ces personnes dont tu parles.
C'est ça.
Ok. Donc c'était quel style ?
Il y avait mon frangin et deux autres copains qui étaient frangins aussi. C'était du punk rock. On faisait du punk rock.
Okay. Et vous alliez dans les où ça ? Alors dans les bars ou pas ?
Oui, on jouait. On a fait quelques bars du Havre, mais en fait moi je suis parti assez vite du groupe parce que je suis parti en Angleterre.
Ouais. Ok.
Pour continuer mes études.
Ah, d'accord, ok.
Donc j'ai mis fin à cette, à cette aventure un peu brutalement parce que je suis parti en Angleterre.
Je pensais que c'était pour développer ton côté punk plutôt, non ? Non, c'était pour tes études.
Alors c'est très marrant que tu dises ça parce qu'en effet, ça aurait pu être ça. Et j'aurais pu arriver en Angleterre et en effet immerger dans cette culture berceau du punk, me renforcer là-dedans. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Arrivé en Angleterre, j'ai totalement renoncé à l'écriture en anglais.
Ouais.
Parce que j'estimais qu'écrire en anglais, quand on est français, c'était pas satisfaisant pour moi. Et en fait, j'ai passé un an à étudier, j'ai eu mon diplôme quand même, enfin 2 ans plus précisément, à écouter Brassens.
Très bien.
Pendant 2 ans, j'ai fait que ça.
Mais tes études n'avaient rien à voir avec la musique. Hein.
Non, c'était des relations internationales, des sciences politiques. Je faisais des sciences politiques.
Pour essayer d'avoir un vrai métier, entre guillemets, c'est
ça ? Ouais, exactement. Exactement. J'ai fait du Brassens, j'ai travaillé le français, quoi. J'ai travaillé l'écriture et le français. Et la guitare aussi, parce que Brassens, il y a quand même un peu de sujet guitare qui va avec. Et donc, j'avais besoin de m'imprégner d'écriture française, de poésie et de jeux acoustiques. Donc là, je me suis vraiment passionné pour ça et j'ai commencé à écrire des chansons différemment.
D'accord. Alors, tu faisais tes études en Angleterre dans les relations internationales, c'est ça ?
C'est ça.
À côté de ça, tu écoutais Brassens, c'était beaucoup, une sorte de passion en fait. Hein. La musique, c'était passion. Donc tu continuais d'écouter et d'écrire, de t'entraîner.
Exactement.
De jouer de la guitare, d'apprendre la guitare. Tu es resté longtemps en Angleterre ?
Deux ans.
Et à ton retour, comment ça s'est passé après alors ?
Alors, j'ai continué mes études. Je me suis inscrit à la Sorbonne. J'étais à la Sorbonne à Paris, là, pour continuer après mes 2 années en Angleterre. Et puis, je continuais la musique en écrivant régulièrement. Et j'avais trouvé un moyen d'en faire de manière un peu plus structurée via les colonies de vacances. En fait, j'avais passé mon BAFA et j'étais animateur de colo. Et donc, l'été, je partais 3-4 semaines avec des groupes de jeunes, assez nombreux d'ailleurs. En général, on était jusqu'à 50 à partir. Et donc, j'ai fait un certain nombre de camps, dont des camps itinérants à l'étranger, d'ailleurs, qui étaient très sympas. Et en fait, je concevais des projets d'écriture et d'enregistrement avec les jeunes.
D'accord. Ouais.
Donc ça m'a éclaté. Et d'ailleurs, je continue à le faire
aujourd'hui.
Et puis
c'est bien, tu t'es confronté aussi au public. Ça, c'est pas évident non plus.
Exactement. Ouais. Ouais. Puis à la conception et à la gestion d'un projet artistique.
D'accord. OK.
Au cœur duquel la compo et l'enregistrement se trouvaient.
Et donc, là, on est dans les années
Les années, j'avais 20 ans et quelques, entre 20 et 25 ans, je pense. Donc, les années 2000, fin des années 90, début des années 2000.
Ouais. Voilà.
La première décennie 2000, on va dire.
Ouais.
Et donc là, je me suis bien éclaté à faire ça. Et puis, c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier album.
Que tu as sorti ou pas ?
Oui, bien sûr. Ça s'appelle Intrigue à l'eau de rose. Et il est sur les plateformes. Et il y a toujours des écoutes. D'ailleurs, je suis toujours étonné.
Il est sorti en quelle année ?
2009, je crois.
2009,
je l'ai posté sur les réseaux.
Ah oui, d'accord. Parce que tu me parlais des années 90. Mais tu as commencé dans les années 90 à écrire des chansons que tu as pu mettre dans ton disque.
Alors, années 90, c'était encore très punk rock.
Ouais,
fin des années 90, début des années 2000, ça commençait à être très Brassens.
Ouais.
Un peu entre les deux. Puis je commençais à faire des chansons.
Grand écart.
Ouais, exactement. Ouais. Mais les deux, j'avais eu besoin des deux pour me nourrir, je pense. Tu vois, puis c'est ce qui a donné naissance, tu vois, cette double culture, on va dire.
Ouais.
Et puis le fait de m'expatrier. Tu prends du recul, tu prends de la hauteur.
Du coup,
tu sais ce que c'est prendre de la hauteur, toi, avec ton ancien
métier. Effectivement, le fait d'être en Angleterre, ça t'a montré l'importance de la langue française, finalement, et des mots.
Ouais, exactement. Et j'avais besoin de ça. Et donc, j'ai vraiment décidé à ce moment-là que j'avais besoin et envie d'écrire en français.
Ouais.
Et puis, de faire des choses un peu moins punk rock et plus à ma manière, avec un peu plus d'acoustique.
Alors justement, quel est le style de ce premier album qui est à peu près le même style que les suivants, finalement, je pense. On en parlera, mais... pop, rock, folk, il y a des influences.
Ouais, moi, c'est comme ça que je le présente un peu.
Ouais.
pop rock folk, c'est à peu près ça.
Ah bah très bien.
C'est à peu près ça. Mais après, il y a des accents de... Tu vois, c'est marrant, j'ai un copain, un bon copain qui habite à Montréal, pour l'anecdote, et qui a un fils, là, qui a 10 ans. Et tu vois, cette génération-là, ils connaissent aussi Green Day et puis quelques groupes punk rock américains qui jouent encore.
Ouais.
Et quand il écoute Bad Religion, il joue toujours aussi, je pense, NoFX aussi. Et le gamin de 10 ans, il trouve que ça ressemble à Green Day, encore aujourd'hui, trucs que je fais.
Excellent,
c'est rigolo.
C'est un beau compliment.
Pourtant, je ne prétends pas du tout faire du punk rock, loin de là, mais il y a certainement des influences dedans, dans les arrangements, guitare parfois, les sons de guitare un peu saturés, et puis les accompagnements. Mais moi, j'aime bien, je voulais donner une teinte un peu électro aussi, en mettant un peu plus de beats électroniques. Donc j'ai beaucoup de mal à définir ce que de la mettre dans une case, mais enfin oui je crois qu'on
va dire folk, folk,
on dit que c'est pop rock, on dit que c'est variété française,
À part Brassens, tu as des influences peut-être plus récentes
Il m'est arrivé régulièrement qu'on me dise que ça ressemblait un peu aux Innocents.
Oui.
Ma voix et le style.
Beau compliment également.
Quand même. Alors moi j'aime bien aussi, j'ai pas mal écouté Gérald de Palmas.
J'allais te le dire. Écoute, tu sais, j'ai écouté évidemment des titres et il y a certains titres qui me font penser à Gérald de Palmas.
De l'album Seigneur Emino, enfin les derniers.
Alors pas de Seigneur Emino, plutôt avant, ouais. Plutôt celui de 2013 dont on va peut-être parler, Ciel Normand.
Mais oui, carrément.
Voilà.
Carrément, l'album qu'il avait fait là, avec Goleman, Marcher dans le sable,
oui.
Je l'ai écouté mais en boucle et j'adore la voix de Palmas. Il a une voix super, je trouve.
Je trouve qu'il y avait des points communs. Alors, j'aime pas faire trop de comparaisons, mais il y a quand même, quelque chose de similaire et qui est très agréable très bon.
C'est cohérent. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à écouter et très flatteur parce que j'aime beaucoup de Palmas.
On aime beaucoup. Ouais. Et alors, du coup, tu as fait cet album, ce premier album. Tu as enchaîné sur un deuxième album en 2013.
Oui, donc Ciel Normand.
Ciel Normand, dont on vient de parler un petit peu. Ta manière de créer, c'est donc d'abord l'écriture, la mélodie. Tu m'avais dit aussi que tu y faisais attention, en tout cas dans les précédentes années, tu faisais attention. Est-ce que la partie technique t'intéresse également à continuer de t'intéresser, les arrangements, la production. J'ai trouvé que tes albums étaient très bien conçus, très bien enregistrés. Et ma question est, est-ce que tu fais les choses seul ou tu t'entoures de personnes, par exemple pour le mixage? Comment ça se passe ton processus de création? Une fois que tu as écrit ta chanson, qu'est-ce que tu fais?
Les deux aspects sont importants, l'aspect outil pour la technique et l'aspect entourage.
Oui, on ne peut pas être tout seul. Hein, de toute façon,
non, ça ne marche jamais seul. C'est toujours important de rencontrer, échanger, avoir l'avis de gens différents. Et pour le mix en particulier. Mais pour la partie création, je me souviens d'un... j'étais à Paris dans mon studio, j'étais en fin d'études. Et au début des années 2000, il y a toujours avec ce pote là, on a découvert un logiciel d'audio qui s'appelle Reason, qui existe toujours, est un peu une référence dans le milieu. Alors moi j'ai découvert ça, je me souviens, c'était en fin d'année, et une fois que je l'ai eu sur mon ordi, je me revois dans mon stud à Paris, là j'étais dans le 12e, la rue Crozatier, où j'étais pote avec tout le reste de l'immeuble qui était blindé d'étudiants, avec qui on est encore pote aujourd'hui d'ailleurs. Et j'avais fait une chanson à l'époque.
Vous n'avez pas un groupe Facebook sur cette rue, sur cet immeuble?
On a un groupe WhatsApp. On aurait pu avoir un groupe Facebook dédié. Carrément. Et on y passe toujours. Et on avait écrit une chanson. J'avais écrit une chanson rue Crozatier où les potes chantent. Bref. Et je me souviens, je me revois en fin d'année, des potes qui me disaient, tu fais quoi pour le 31? Je dis, le 31, je fais du Reason, quoi.
Ouais.
je me revois toute la nuit du 31 faire du Reason parce que je venais d'acquérir ce nouveau logiciel et je pouvais faire mes batteries moi-même. Ça c'était, pour moi, c'était l'Eldorado. Je pouvais faire mes batteries puis jouer dessus.
Tu t'enregistrais?
Ouais. En fait, je faisais la batterie, que tu écrivais dans les petites grilles à l'époque. Ouais. C'était un peu le début, en tout cas, des logiciels de son. En tout cas, moi, c'était mon début. Et il fallait que j'apprenne à bien les enregistrer. Et puis, donc, j'ai découvert ça, j'ai passé ma vie là-dessus et j'ai commencé à enregistré et composé tout ce que je pouvais. Et puis quelques années après, j'ai commencé à bosser sur Logic Audio.
Oui.
Et là, Logic Pro, Logic Audio, pareil, j'ai découvert un monde.
Alors Logic, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est une STAN, hein, une station audio numérique d'enregistrement où on peut que plein d'artistes comme les plus grands, hein, David Guetta, enfin il y en a plein, qui utilisent cette station et ça permet de s'enregistrer, ça permet de faire de la production, ça permet de créer des rythmes, ça permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, de base, tu peux enregistrer ta guitare et ta voix. Mais toi, tu es allé un peu plus loin en faisant des parties rythmiques,
exactement,
etc.
Ouais, okay. Bah oui, je crois que c'est arrivé avec l'avènement des réseaux sociaux un peu en même temps, ouais. Tu vois, dans les années 2000-2010, où tout le monde a commencé à pouvoir être producteur, autoproducteur en musique, à composer ses arrangements. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore FL Studio, là, qui est pareil, qui est une transformation des logiciels des années 2010, que les rappeurs utilisent énormément.
Une fois que tu as fait tes enregistrements, la partie mixage et mastering, tu l'as fait toi-même ou le mixage peut-être que tu l'as fait toi-même.
Alors je fais un prémix, je fais une mise à plat la plus propre possible. Et puis après, j'ai travaillé avec des ingé sons. Donc à l'époque, c'était mon pote Brieux.
Ouais.
Et là, plus récemment, pour le dernier album, c'est avec Eric Docteur. Donc
un studio du Havre, très connu.
Studio des Docs. Donc c'était génial parce qu'Eric, il a une vraie vision globale.
Un très beau studio également.
Un super studio, au passage. Donc ça, c'était super. Mais oui, alors j'ai vraiment besoin d'un extérieur. Parce que tu sais, quand t'as écrit, composé, enregistré, fait tous les arrangements, moi, je m'éclate à faire ça. Je pourrais faire ça toute ma vie, toute l'année, toute la nuit, toute la journée. Écrire, composer, enregistrer, faire les arrangements, c'est vraiment ce qui m'éclate. Et après, par contre, j'ai besoin de quelqu'un qui arrive avec un œil extérieur et qui se plonge dans les détails pour affiner tout ça, éclaircir, donner du volume, de l'ampleur.
Quand on a travaillé des heures et des heures sur un titre, un air, on n'entend plus la même chose.
Il
faut une oreille vierge pour.
Tu peux pas demander aux maçons de faire la peinture, quoi.
Ouais. Vrai, chacun son métier, en fait, de toute façon.
Au bout d'un moment, il faut l'aide et le regard extérieur.
Donc, toute cette partie création, donc, en fait, il y a plein de choses qui t'intéressent dans la partie création. 2013, c'était Ciel Normand, et là, tu as un nouvel album, Seigneur et Minot, on est en 2025. Alors, avant d'en parler, qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2025?
Bah, j'ai eu des enfants, déjà. Et ouais, ma fille, notre première fille est née en 2014. Et puis après, on en a eu deux autres, trois filles aujourd'hui. Et entre donc 2018 et 2020. Donc tu vois, 2014, 2018, 2020, on a eu trois enfants. On habitait à Paris et on est revenu au Havre en 2016. Ce qui fait que... Alors quand je suis revenu au Havre, j'ai commencé à refaire un peu de musique avec des potes. Mais très vite, le boulot et s'occuper des enfants, réorganiser toute cette vie au Havre...
Tout ça, t'es un peu éloigné, oui, bien sûr.
Alors j'ai fait quand même un super projet à l'époque pour les 500 ans du Havre.
Oui.
En fait, j'ai composé un morceau qui s'appelle We Come From LH, qui est toujours accessible.
Oui, dans la vidéo de présentation pour les 500 ans du Havre, c'était une vidéo officielle.
Oui, tout à fait.
Oui,
tout à fait officielle.
On la trouve sur YouTube. Oui,
si exactement. C'était hyper sympa. Moi, j'ai adoré faire ça. Là, pareil, tu vois, le morceau, il est assez punk rock. Je l'ai fait avec mes potes de l'époque, donc Mathieu, mon frère Julius et puis Brieux. On a enregistré ça et on a fait un clip avec les commerçants, avec l'association des commerçants. Donc en 2017, tu vois, c'était un an après mon arrivée finalement. Ouais. Donc j'ai fait ce projet-là. C'est Ronan Legendre qui avait filmé à l'époque, qui avait fait le petit clip avec les commerçants. Et c'était super. C'est une des étapes, tu vois, entre 2013 et 2020, puisque tu me posais la question.
Ouais.
Et après, effectivement, avec l'arrivée de mes deux autres filles, j'ai été bien occupé. Et puis j'ai commencé à réécrire, reprendre le temps. Et composé au début des années 2020, tu vois. Et puis, effectivement, après, il faut 3-4 ans, bien sûr.
Ouais. Alors, justement, pour nous parler de ce dernier album-là, de Seigneur et Minot, sorti cette année, je reprends un petit peu ce que tu as mis dans ta biographie, parce que je la trouve très bien. Ça résume bien, finalement, mais tu vas nous en dire certainement un peu plus. Donc, je te lis. Pour ce troisième album solo, Mathieu L. se plonge dans la magie des journées et des nuits du papa Quadra. Qu'il est délicieux de profiter des enfants autant que des seniors, quand on ne fait plus partie pour un temps assez court d'aucune des deux catégories.
Et on en profite.
Bravo, c'est très bien écrit. Et écoute, moi qui passais cette partie quadra, je suis d'accord avec toi, il faut bien profiter de cette partie. Elle est intense, elle est courte, elle est très belle, et il faut en profiter. Donc cet album, on l'a compris, ça parle de tes enfants et des grands-parents et des parents.
Oui. Bah oui, et en plus, il s'avère que j'ai rencontré sur mon chemin des gens très sympas, qui sont mes voisins d'ailleurs, et avec qui j'ai bossé quelques temps et avec qui on est assez potes et qui bossent dans le milieu des seniors. Ouais. Donc j'ai bossé quelques temps avec eux dans le milieu des seniors, tu vois, les EHPAD et autres maisons de retraite. Ouais. Donc j'ai touché d'assez près la vie quotidienne des seniors. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'aller dans les maisons de retraite pour avoir une famille, des amis et puis des relations dans ces deux catégories, en effet. Mais oui, ce temps de quadra, il est quand même très consacré aux enfants et aux seniors. On a la chance d'avoir des familles avec lesquelles on passe beaucoup de vacances. Donc les vacances, c'est les enfants et les seniors. C'est organisé autour de ça. Bon, on a la chance, d'ailleurs, nous, de notre côté, de ne pas avoir trop de seniors à gérer en termes de santé. Mais il y a quelques années, j'avais encore mes grands-parents dont on a profité aussi. Et oui, c'est génial. Ces petits moments avec des enfants de 2-3 ans, tu sais, quand tu as des enfants de cet âge-là et que tu as encore tes grands-parents, donc des gens de plus de 90, 95 ans parfois. Moi, j'ai une grand-mère qui a vécu très, très vieille. La grand-mère de mon épouse aussi, elle a vécu jusqu'à, que je ne dise pas bêtise, elle avait 106, si je ne me trompe pas. Tu vois, et donc, il y a eu des échanges avec mes enfants, mes filles qui, à 2-3 ans, ont vu cette grand-mère, cette arrière-grand-mère de 100, plus de 100 ans. Et donc, ces moments-là, c'est magique. Ça m'a inspiré énormément de sujets.
Donc, c'est sur ce thème-là, cet album, ce thème Seigneur et Minou, de toute façon, voilà, c'est résumé.
Exactement. Ça m'a passionné et puis inspiré énormément. J'avais envie de mettre ça en musique. Moi, j'adore que mes enfants et d'autres enfants écoutent des chansons, dansent le matin avant de partir à l'école. S'éclate.
Tu es fier de cet album ou tu...
Oui, je suis très fier et puis très content de l'avoir fait. Ouais, c'est génial.
C'est un très beau souvenir aussi pour tes enfants.
J'espère. Voilà. J'espère. Ouais. Mais oui, j'espère. C'est des moments géniaux. Il y a quelques chansons, il y a quelques singles où j'ai fait chanter les filles dessus aussi avec d'autres jeunes. Là, j'ai fait des trucs avec des scouts aussi.
Oui.
Donc c'est la musique, c'est génial parce que c'est un vecteur génial d'échange et de projets participatifs où tu peux impliquer des jeunes, des vieux, plein de gens et où tout le monde va passer. Voilà,
comment une fois que ton album est sorti, là, comme justement tu en parles un petit peu, comment tu fais vivre un album, parce que c'est un vrai métier d'entrepreneur, t'es pas que compositeur, auteur, interprète, il faut être entrepreneur, prendre ta valise et aller faire du porte-à-porte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, là on revient dans un domaine un peu moins poétique, on va dire, mais une partie un peu essentielle aussi du métier de chanteur, comment tu vends?
Ben oui. Donc là, effectivement, après, les 10 mois, on va dire les 5 ans de composition, enregistrement, machin, les 10 mois de studio, arrangement et de mix. Après, vient le temps, et là, pour moi, il a démarré en mai dernier, vient le temps de la promo. Donc évidemment, là, tu changes de costume. C'est pas quelque chose... Alors, moi, j'aime bien le faire. Ça a toujours fait partie des métiers que j'ai exercés, de faire de la communication, du business, des échanges, rencontrer les gens. Moi, j'aime bien. Mais effectivement, c'est un travail acharné de commercial où il faut tout le temps relancer, proposer des vidéos, des posts.
Parce que tu es indépendant, il n'y a pas de manager. Ouais.
Non, je suis indépendant. Ouais. J'essaye de collaborer avec des gens comme vous, la radio. Ouais. J'ai eu la chance de faire une interview avec Paris Normandie, d'avoir un article dans Paris Normandie en juin, de faire une interview avec France Bleu.
Oui, en fait, c'est comme ça qu'on se fait connaître, qu'on peut... J'ai dit vendre tout à l'heure, c'est pas un très joli terme, mais enfin...
Diffuser, vendre, bien sûr.
Il y a les plateformes aussi, comment ça marche? On met ses titres sur Deezer, Spotify, Apple Music. Il y a une vraie visibilité quand même ou c'est compliqué parmi les centaines de milliers de titres qui rentrent par jour dans ces plateformes, de se faire une petite place?
Déjà, d'être sur les plateformes, c'est déjà une chance. Avant, ça n'existait pas. tu vois, tous les anciens, les anciens Icos auraient rêvé d'avoir ça dans les années 80, 90. Ouais. Bon. Donc moi, je prends ça comme une grande chance. Je suis dessus depuis les années 2010, avec mon premier album. Dès que j'ai pu, j'ai posté sur TuneCore. Là. C'est l'espèce de distributeur en ligne qui te permettent pour des sommes maintenant raisonnables, tu payes un petit abonnement annuel de quelques dizaines d'euros et ça te permet d'être sur toutes les plateformes. Donc c'est déjà une chance extraordinaire. Et après, en effet, il faut faire vivre ça parce que les plateformes, eux, leur métier, c'est pas de te faire vivre et de te diffuser. Ils diffusent ceux qui payent.
Ah oui, il faut payer.
Ah bah, la pub, oui, tu sais, la pub, la mise en avant et tout. Donc c'est les gros labels. Tous les jours, tu vois arriver du Jul, du Gims et tout ce qui s'ensuit. Donc toi, pour exister là-dedans, avec ta petite compo modeste, il faut trouver d'autres leviers. Donc j'essaye de diffuser un max sur les réseaux sociaux, un maximum, et puis aussi d'activer et d'animer un maximum le réseau local. Des gens comme toi, je suis très content de t'avoir rencontré.
Ben, nous aussi, c'est partagé, vraiment.
C'est un
aussi.
Plaisir. Ouais. Les radios locales, le boulevard des artistes, la mairie, toutes les fabriques, là, les fabriques des quartiers. J'essaye d'être visible auprès de tous ces gens-là. Tu vois, donc je te disais, on a joué à la Transat il n'y a pas longtemps, Café L'Or, avec mon groupe de reprise Châtaigne. J'essaie de me rapprocher de tous les acteurs qui participent à des événements. Et qui
c'est ton activité principale aujourd'hui ?
Ouais.
D'accord.
Ouais, je fais vraiment, j'ai consacré là, cette année 2025 à enregistrer, composer et maintenant à diffuser. Ouais. Et puis j'essaye de greffer un certain nombre d'activités musicales autour, comme les ateliers d'éveil musical et des interventions en entreprise, des animations de séminaires, des animations de mariage.
Oui, c'est très riche, très chargé quand même.
J'essaye de, d'élargir un peu la palette musicale pour avoir des sources de revenus.
J'imagine également que les concerts sont importants. La scène ?
Oui, très.
Alors justement, est-ce que tu as une actualité à venir sur la scène ?
Oui, on va jouer à la Singerie. Place des Halles Centrales au Havre, le vendredi 21 octobre vers 19h-20h.
Okay.
J'aurai l'heure exacte que je diffuserai sur les réseaux. Mais
ça sera dit pour les places, on les trouve. Tu as un site internet ou on y va ?
On a cette date. Oh, c'est vraiment Instagram.
C'est Instagram.
Ouais. Okay. Les réseaux, j'ai une page Insta, une page Facebook, une page LinkedIn. Donc je suis assez présent sur les trois. J'essaie de diffuser un peu sur X aussi. Mais on trouve toutes les infos concernant les concerts sur ma page Insta, la page Facebook.
J'avais une petite question concernant un peu différente, mais qui concerne l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. On en parle tous les jours même, et elle prend le pas de plus en plus dans la musique, une place de plus en plus importante. Toi, quel est ton sentiment ? Est-ce que tu vois ça comme une menace, alors, mis à part les droits d'auteur, etc., mais dans la partie créative, qu'est-ce que tu en penses en fait ? Est-ce que tu peux l'utiliser ? Tu pourrais l'utiliser ? Est-ce que tu trouves que ça peut apporter quelque chose ou pas du tout ? Est-ce qu'il faut la fuir ou l'apprivoiser ?
Je pense que tu peux essayer de la fuir, elle reviendra au galop.
Ouais.
il vaut mieux essayer de l'apprivoiser, de la comprendre et puis d'en faire des outils intéressants. J'ai joué un peu avec Suno, là il y a quelques mois, ça fait quelques temps que c'est là, mais je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Alors effectivement, c'est très puissant. Effectivement, ça puise dans tous les catalogues allègrement. Parce que tu vois, typiquement, on parlait des groupes de punk rock Californie, années 90. Là, aujourd'hui, tu tapes dans les logiciels d'IA comme Suno. Voilà un texte, je veux que tu me fasses des morceaux comme NoFX, Bad Religion, Green Day, machin. Il te le fait en 3 secondes et demie, même, moins que ça même. Et effectivement, il a pompé les phrases et les mesures des groupes, clairement, c'est exactement les mêmes trucs. Par contre, les voix en français, en tout cas, il y a un peu moins de... C'est un peu toujours les mêmes qui ressortent. Et puis moi, ce qui m'a arrêté tout de suite, c'est que tu ne peux pas faire d'acquisition audio dessus. Parce qu'en fait, au départ, je m'étais dit, tiens, je pourrais réorchestrer des chansons que j'ai fait dans les années, tu vois. Mon album de 2009, il y a un morceau qui s'appelle « On mange des pommes
»,
qui est dédié... à la Normandie, et que j'aime bien, mais j'aurais bien aimé le ressortir un peu, tu vois, réarranger. Et je m'étais dit, tiens, je pourrais le refaire avec de l'IA, et puis rechanter dessus. Mais en fait, tu ne peux pas faire d'acquisition audio dans l'IA. Tu ne peux pas dire à l'IA de te faire un morceau, puis chanter dessus. En tout cas, c'est assez complexe.
C'est peut-être pas encore assez développé.
Ouais, je pense que ça marche pas encore très bien. Donc je me suis arrêté là. Mais tu sais, je crois que c'est comme l'électricité et puis les téléphones portables. Hein. Tu peux dire que c'est mal et qu'il faut tout stopper.
Mais ça sera nécessaire quand même. On va y baigner de toute façon. Voilà. On baigne déjà dedans.
Toi qui as été dans l'aviation, c'est pareil. Le pilote automatique et tous les instruments de sécurité qui apparaissent et qui remplacent le travail du pilote, ça a beaucoup amélioré le pilotage.
Oui, puis
on travaille différemment après.
Oui, et puis c'est incontournable de toute façon.
Pour prendre une anecdote qui peut te parler.
Voilà.
Mais je pense que c'est la même chose. Les studios de musique, les artistes et tout, petit à petit, ils vont l'utiliser comme un support.
Oui, comme un outil.
Ils vont gagner du temps. Puis tu sais, on parlait de logique audio et toutes les boucles qu'il y a dans logique et tout ça. C'est pareil, hein, c'est des mecs qui ont joué au début et puis... Et puis les rappeurs, ils utilisent ça depuis très longtemps. Ils mettent des boucles. Ça enlève rien à la créativité. C'est juste qu'ils reprennent. Tu vois, il y a plein de jeunes qui écoutent un morceau de rap là, qui cartonne avec une intro de Charles Aznavour. Ouais. Mais personne ne sait, dans les gamins de 10 ans qui écoutent, que c'était l'intro de Charles Aznavour des années, je ne sais pas quoi, 70, 80. Et ce n'est pas très grave. Le morceau, il tourne. Les rappeurs, ils ont composé un truc dessus. Ils ont utilisé une base. Après tout, il y a plein d'artistes qui font ça, qui agrègent d'anciens morceaux, qui reprennent des tubes, qu'en font d'autres tubes. Tu parlais de David Guetta tout à l'heure, les DJ font beaucoup ça aussi.
Oui, non mais c'est vrai, tu as raison, faut pas...
Bon, je pense pas qu'il faut diaboliser.
Non, oui. Il faut l'apprivoiser, que ça soit son allié qu'un ennemi, parce que toute façon, on n'y coupera pas. Et puis après tout, il reste la scène pour se différencier. Donc,
il reste la scène et puis... Je pense que c'est toujours une histoire de foi dans le public et dans l'oreille humaine. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les enfants, moi, mes enfants, ils sont pas vieilles, mes filles, mais elles commencent déjà à détecter les morceaux qui sont de l'IA.
Oui.
Tu vois, les morceaux pure IA qui sortent des plateformes pure IA, elles commencent à entendre ce que c'est qu'un artiste live, de l'IA, un objet IA.
Elle différencie la machine de l'expérience humaine.
Exactement, exactement. Et puis après, comme tu dis, après, tu as raison, il y a la scène.
Il y a la scène, oui.
C'est ce qui déjà, depuis quelques années, a pris une dimension tout autre. Depuis que les plateformes, depuis qu'il n'y a plus de disques, il n'y a plus de CD, il n'y a plus de magasins de disques, etc., déjà, il y a 15-20 ans, depuis au moins 15-20 ans, c'est initié. Et les gens sont très contents de venir en live, sont très contents de venir en public. Tu vois, hier, les potes que je voyais au bistrot, c'était plein. Les gens sont contents de voir du live. Ouais. Ils sont demandeurs.
Et je vais te dire, contrairement justement à l'IA qui peut faire des choses parfaites, ou même de la technique qui rend les voix parfaites, etc., en live, on peut faire des erreurs, on peut faire une fausse note, on peut avoir... on peut tousser, enfin, on peut faire plein d'erreurs humaines, mais on les apprécie de plus en plus maintenant, parce que justement, ça nous reconnecte avec cette humanité qui nous manque de temps en temps quand même maintenant. Une dernière question avant de nous quitter, avant de terminer cet entretien. Juste, tu as pas mal d'expérience maintenant. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui seraient avec leur guitare à écouter des textes et qui aimeraient se lancer dans cette carrière? Tu pourrais leur donner des conseils, des voies à explorer, à faire ou à pas faire ou...
Tu me poses une question très difficile.
Ouais. Par rapport à ton expérience, ce que tu referais peut-être ou ce que tu referais pas, par exemple.
Ça, exactement. J'amorçais la réflexion pour te répondre, mais je pense que ce qui m'a, pour ma part, ce qui m'a peut-être limité au début, c'est de faire de la scène. Enfin, j'en ai pas fait assez. J'aurais bien aimé en faire plus. Après, j'habitais à Paris. J'avais commencé à jouer dans le métro. J'avais passé une audition pour ça. Tu passais une audition pour jouer dans le métro, je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs, pour avoir ton accréditation. Et j'aurais bien aimé jouer plus, en faire plus, privilégier la scène plus tôt, notamment dans le processus créatif. C'est-à-dire que la tendance, et qui a été un peu guidée par l'outil, c'est de très vite enregistrer tes compos pour les diffuser.
Ouais.
Et en fait, comme tu les as pas joués sur scène, tu les as pas beaucoup éprouvés, t'as pas beaucoup affûté ta voix et ta tonalité.
Ouais.
Ce qui fait que, tu vois, là, je me retrouve à jouer des morceaux que j'ai enregistrés, qui sont sur les réseaux, mais en fait, sur scène, je change de tonalité, tu vois, je les joue un peu plus haut ou un peu plus bas, plus haut en général, et parce que je les ai pas assez joués sur scène, je pense. Et je pense que l'outillage, tous les logiciels de création audio ont généré cette tendance où on enregistre et on diffuse beaucoup de sons avant de les avoir beaucoup joués sur scène. En tout cas, voilà ce que je pourrais partager très modestement.
C'est très intéressant. Et en fait, parce que pour les gens qui ne connaîtraient pas tout ce qui est un peu technique, on a parlé des logiciels comme FL Studio, Logic Pro, Reason. Mm. Tout ça, ce sont des logiciels. Aujourd'hui, on peut avoir un home studio pour pas trop cher, avec peu de moyens, qui est l'équivalent d'un studio professionnel d'enregistrement il y a quelques années. Mm. Et on peut tout à fait sortir un album en restant chez soi. Donc en fait, effectivement, pour un jeune, je pense que ce que tu dis est tout à fait pertinent, c'est-à-dire aller se confronter au public et puis aussi travailler avec d'autres personnes et pas rester que dans sa chambre pour travailler sa musique.
Ça c'est sûr. Toutes les structures musicales que j'ai pu croiser, rencontrer, encouragent ça. Dès qu'elles ont des groupes qui prennent des cours, des gens qui prennent des cours, l'issue d'un cours, c'est de participer à un groupe. C'est de faire partie d'un groupe, c'est de créer un groupe. Il faut rencontrer des gens, il faut se confronter. Ouais, ça, c'est indispensable.
Écoute, Mathieu, je te remercie. J'ai été ravi de t'accueillir et d'avoir cet entretien avec toi.
Moi aussi, merci Guillaume.
Donc, je rappelle, tu sors Seigneur et Minot, ton dernier album, que l'on peut trouver écouter sur les plateformes, en vente physique également.
Alors, non, je n'ai pas fait de
CD. Pas de CD, mais les plateformes.
Tout est disponible sur les plateformes. Pour l'instant, donc, que des singles. J'ai sorti des singles depuis le mois de mai pour essayer de mobiliser un peu et de teaser. Et puis, je vais mettre en place une date de concert. Je vais organiser un grand concert, je pense, au mois de mai l'année prochaine, pour la sortie officielle de tout l'album finalisé avec tous les titres. Et on essaiera de faire une grande fête à cette occasion.
Eh bien, on se retrouvera à cette occasion.
Alors, avec plaisir.
Merci beaucoup, merci. Mathieu. Merci.
Merci, Guillaume.
C'était Un Havre de Culture. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiogirafenormandie.fr ou sur notre application pour iOS ou Android. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Mamie, sais-tu que j'ai guéri de tous les maux, les maladies, grâce à tes recettes à l'ancienne, celles que tu faisais pour que je vienne chez toi le samedi. Mamie, tu peux te reposer, nous sommes tous en bonne santé, grâce à tes plantes aux mille vertus, qui poussent sur tous les talus, tes mille pertuis. Quelle était bonne mamie, ta soupe d'ortie. Sais-tu seulement que c'est tes recettes qui m'ont donné ce corps d'athlète. Quelle était bonne mamie, ta soupe d'ortie. Sais-tu seulement que c'est tes recettes qui m'ont donné ce corps d'athlète. Mamie, on voulait te dire merci pour tous les soirs où tu as pris le temps de nous lire une histoire avant d'affronter la nuit noire au fond de nos lits. Quelle était bonne mamie, la soupe d'ortie. Sais-tu seulement que c'est tes recettes qui m'ont donné ce corps d'athlète. Quelle était bonne mamie, ta soupe d'ortie. Sais-tu seulement que c'est tes recettes qui m'ont donné ce corps d'athlète. Que j'ai guéri de tous les maux, les maladies, grâce à tes recettes à l'ancienne, celles que tu faisais pour que je vienne chez toi le samedi. qu'elle t'est bonne, bonne, bonne mamie. Ta soupe d'ortie, soupe d'ortie. Sais-tu seulement que c'est tes recettes qui m'ont donné ce corps d'athlète. Qu'elle t'est bonne, bonne, bonne mamie. Ta soupe d'ortie, soupe d'ortie. Sais-tu seulement que c'est tes recettes qui m'ont donné ce corps d'athlète.